Alors pour commencer, moi je n'ai pas vu les photos de la famille Fraco tout à l'heure, je pense qu'elles étaient superbes. Moi j'ai envie aussi de commencer avec des belles photos, mais avec une autre échelle. Ce sera à l'échelle du microscope. Parce que s'il y a une chose que moi j'aime bien dans mon travail, c'est que je travaille sur des choses qui sont très belles. Alors Matt Oer disait quand j'étais étudiant que les roches avaient une histoire et que les roches nous parlaient. Et bien pour nous parler, en plus, elles se font belles, elles le font avec beauté. Et chacune de ces images que vous voyez là, au microscope, donc, donne une information sur l'histoire que je vais continuer à vous expliquer tout à l'heure. Donc encore quelques images avant de passer aux choses sérieuses. Donc ça, c'est des images de lave, de la croûte du plancher océanique, hein, dans laquelle le verre est parcouru et on contient des petits cristaux de plagioclase. Donc ça, ce sont des roches métamorphiques, ça, rien d'étonnant de ma part, et puisque c'est un petit peu mon produit préféré. Voilà, puis pour terminer, les serpentinites. Et donc, comme ces roches sont très belles et qu'elles racontent une belle histoire, j'ai souhaité que le livre dont je vais vous parler ici soit illustré avec des aquarelles. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à Christine Laverne, qui a le double avantage de très bien dessiner, de très bien peindre et d'être géologue également. Parce que pour, évidemment, décrire avec l'œil du géologue, il faut être géologue. Et Christine Laverne a travaillé sur la croûte océanique, mais sur la croûte océanique in situ, hein, sur place, non pas en plongeant, bien entendu, mais en profitant des dragages, des forages, etc. Donc, quand on écrit un livre, il y a deux choses qui sont importantes dans le titre, c'est que celui-ci soit court et celui-ci soit explicite. Et là, j'ai un petit peu faux, parce que le titre est long, à la recherche des océans disparus de la montagne française, les éditeurs viennent pas trop. Et en plus, bien, ma foi, ce n'est pas les océans qu'on va voir, bien entendu, hein, mais la croûte océanique, c'est ce qui est sous les océans. Parce que c'est le petit lac ici que vous avez au pied du Mont Viso, à proximité du refuge Quintinocelle, il n'est évidemment pas un reste de l'océan, d'un vieil océan alpin. Ce qu'on va voir, donc, c'est la croûte océanique, la croûte terrestre qui se trouve sous les océans. Hein, vous savez que notre planète Terre présente deux croûtes particulières, une croûte continentale qui émerge et sur laquelle nous circulons, et puis une croûte océanique sous les océans. Hein, c'est une spécificité de la Terre, d'un système solaire, c'est la seule planète qui ait cette double croûte, et ceci est dû à l'existence de l'eau, hein, une matière absolument extraordinaire, cette eau. Donc cette croûte océanique, eh bien, elle est sous les océans. On distingue ici la croûte océanique qui est beaucoup plus fine que la croûte continentale. Et pourquoi cette croûte océanique est plus fine et plus profonde que la croûte continentale? Eh bien, c'est parce qu'elle n'a pas la même composition, elle n'a pas la même densité. Et c'est pour ça qu'il serait souhaitable d'aller y regarder de près, ce qui reste quand même une recherche, une prospection qui est relativement récente. Donc, dans le détail, cette croûte repose sur une partie superficielle du manteau rigide, hein, c'est le manteau supérieur. Le manteau, c'est cette couche énorme, la plus importante de notre globe. Et ce manteau rigide est solidaire de la croûte. En fait, c'est cet ensemble que l'on appelle d'ailleurs la lithosphère, la sphère de roche, qui se déplace sur la sténosphère, sur le manteau, le manteau qui est plastique ici, hein, donc c'est très important de bien solidariser, enfin, on n'a pas les solidariser, ils sont déjà solidarisés, mais au moins d'exposer, de les replacer ensemble. Hein, cette lithosphère, c'est donc ce manteau rigide et cette croûte. Alors, comment aller étudier cette croûte océanique si elle est sous l'eau? Parce que 3000 mètres ou plus d'eau, c'est quand même pas une accessibilité très facile. Alors il y a différentes méthodes. La plus simple, c'est le dragage. le dragage des attirants va gratter le fond des océans. Vous voyez au passage que nous sommes beaucoup plus modestes, nous autres géologues, que les pêcheurs qui ratissent à l'heure actuelle les fonds océaniques. Donc, une méthode, il y a aussi des forages, et puis, bien entendu, l'observation directe, parce que le scientifique qui va étudier une formation, il a envie de la voir, de la toucher, de l'approcher. Donc, la solution, c'est d'utiliser des bathyscaphes, des sous-marins, qui permettent de descendre à la surface de cette croûte océanique et de faire des observations. Des observations qui sont assez spectaculaires. Hein, lorsqu'on découvre ces fumeurs noires, ici, ma foi, c'est quand même quelque chose de fabuleux, ces fumeurs noires qui ont développé, qui ont formé cette colonne ici. Par contre, la vision qu'on a, elle est quand même assez restrictive. Hein. On est un petit peu enfermé dans une boîte de conserve, la vision est extrêmement réduite. Et finalement, si on avait une autre solution, ça serait pas mal. Et cette autre solution, c'est ces formations que l'on appelle des ophiolites. Ces ophiolites, ce sont des portions de cette croûte océanique, et de cette lithosphère océanique, même puisqu'on y trouve le manteau, qui sont venues reposer sur les bords des continents, hein, parce qu'ils ont eu un trajet un petit peu anormal, inhabituel, ce qui fait que ce sont des formations relativement rares. Ici, vous avez donc une carte du sultanat d'Oman, où nous avons une des plus belles ophiolites du monde, grâce à un climat qui est favorable à l'affleurement des roches, plus qu'à la végétation. Donc, cette croûte océanique est venue reposer ici. Alors ici, vous avez une coupe verticale. Hein, vous savez que la coupe géologique qui est tracée ici nous permet d'avoir la troisième dimension sur cette carte géologique. Et donc, à partir de là, parfois, on peut se balader beaucoup plus facilement qu'à l'intérieur d'un sous-marin. Alors, je parle quand même de nos montagnes en France. Donc, on va revenir quand même chez nous pour montrer qu'on trouve aussi, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au sultanat d'Oman pour voir des ophiolites. On trouve ça aussi au Cap Corse, ici, à l'extrémité du Cap Corse, où nous avons le Monte Maggior, où un morceau du manteau qui était sous les océans, sous la côte océanique, est venu reposer sur l'île de Corse. Un autre lieu en France, c'est à l'autre extrémité, je dirais même, c'est donc à la presqu'île de Crozon, la pointe de l'Osmar, ici, où nous avons ces laves, avec cet aspect caractéristique en coussin, qui sont typiques des laves qui se sont mises en place sous l'eau, et sont mises en place en milieu sous-marin. Alors si on trouve ces croûtes océaniques, cette lithosphère océanique au bord des continents, à proximité de l'océan, à faible altitude, pourquoi aller chercher cette croûte océanique dans les montagnes? Alors, déjà, dans les montagnes, on a de superbes affleurements, effectivement, de cette croûte océanique. Ici, vous avez une falaise dans le massif du Chenaillet, à proximité de Mont-Genèvre, à proximité de Briançon. Une falaise constituée de ces laves en coussin, cet aspect très caractéristique. Donc, on peut aller visiter le plancher océanique, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il faut monter au-dessus de 2500 mètres d'altitude. En dessous, il n'est pas possible de trouver dans les Alpes françaises cette croûte océanique. Et ici, vous voyez ces étudiants futurs, maintenant ils sont devenus des profs de SVT, c'est cette photo à quelques années, qui sont toujours ravis lorsqu'ils parcourent le sommet de cette croûte océanique. Alors je vais prendre un autre exemple dans les Alpes, dans la région du Queyras, c'est-à-dire un petit peu plus à l'est. Là, vous avez le brick boucher, qui est un morceau de lithosphère océanique également. Vous voyez que cette roche est un peu plus verte que celle qui est à côté. Bien sûr, elle est beaucoup moins verte que ces magnifiques prairies de la fin du mois d'août dans cette région, mais elles ont cette teinte verte qui fait qu'on les a aussi appelées les roches vertes. Et ce brick boucher, il culmine à 3000 mètres d'altitude. Alors, à quoi bon aller grimper là-haut, hein, pour aller étudier ces roches, si on peut les trouver à cette hauteur-là? Alors vous me direz, c'est déjà le plaisir de la promenade, ça c'est sûr que c'est important. C'est aussi la qualité de l'affleurement, ça c'est clair que ici la végétation est beaucoup plus favorable encore une fois aux géologues. Mais par contre, lorsqu'on travaille dans la montagne, il y a une contrainte qui est quand même assez significative, c'est qu'il faut ramasser les échantillons. Hein. Et lorsqu'on est en haute montagne, ben, la première fois, les échantillons, il faut les ramener sur son dos. Hein. On n'a pas la voiture à proximité. Et vous voyez ici, bon, ben, c'est la, Baptiste Lebré qui vient de soutenir sa thèse il y a quelques mois, hein, qui ne savait pas à l'époque que lorsqu'on est en montagne, on échantillonne en descendant et ouais. pas en montant. Mais, depuis, il a compris. Hein. Il est devenu un brillant géologue alpin. Donc pourquoi aller dans les montagnes? Eh bien ça, pour, nous allons le voir en reprenant un petit peu en détail le cycle complet de la lithosphère océanique. Donc cet océan se forme par extension de la croûte. On développe ici un rift. Ensuite, eh bien, on a notre océan mature, tel que l'océan Atlantique, par exemple, hein, dans lequel cette croûte océanique s'est formée. Ensuite, si on a une inversion de le mouvement des plaques, eh bien cet océan va se refermer jusqu'à la collision de ses marges, peut-être, et c'est là que nous allons former des chaînes de montagnes, et si la convergence s'interrompt, si son mouvement s'interrompt, cette chaîne de montagnes va être érodée. Alors je vais reprendre un petit peu en détail ce schéma qui est important, puisque c'est la base de toute cette exposé, bien entendu. Donc nous avons ici le stade initial où, selon les mouvements des plaques, ici nous avons les déplacements en extension, les mouvements en extension. La croûte continentale qui repose donc sur ce manteau rigide va s'étirer. Elle s'amincit par le haut, mais aussi par le bas. Donc la lithosphère dans son ensemble s'amincit par le haut, par le bas. Ce sont des failles, des fractures qui vont découper cette croûte continentale, et cette remontée ici du manteau profond provoque la fusion de ce manteau profond et la mise en place de roches volcaniques. On connaît bien ça, hein, pas loin d'ici, l'enrift graben de ce style-là, c'est le graben de la Limagne, par exemple, avec le volcanisme qui lui est associé. Notre rôle de son, non? Ensuite, si cette extension, si le mouvement se poursuit, bien évidemment, au moment où il n'y a plus avoir de croûte continentale, elle est étirée et elle va être remplacée par ce magma produit de la fusion partielle du manteau. En conséquence, les roches de la croûte magmatique sont toutes des roches magmatiques.
Pardon, qu'est-ce que
je suis en train de mélanger les pinceaux, là, ces roches de la croûte océanique sont toutes des roches magmatiques, à l'exclusion, bien sûr, des sédiments qui vont venir se déposer par-dessus. Donc ici, un stade mature de cet océan, tel que l'océan alpin, on remarque le passage de la croûte continentale à la croûte océanique. Il se fait par ce que l'on appelle une marge passive, donc avec ces fractures, on va y revenir par la suite. Ensuite, si cet océan se referme, eh bien, à l'opposé de cette marge passive, nous allons avoir une marge active. Et c'est ici le retour de cette lithosphère océanique dans le manteau, cette lithosphère océanique qui s'est alourdie en s'éloignant de la ride ici, qui s'est alourdie et qui plonge, qui retourne dans le manteau en passant sous la croûte continentale. Cette convergence se poursuit et elle n'a pas de raison de s'arrêter avec la fermeture complète de cet océan. Les mouvements des plaques se font à une échelle globale, ils ne se font pas à l'échelle du sous-sol océan. Donc cette convergence va se poursuivre et dans ce cas-là, eh bien, ce sont les marges continentales qui vont vont maintenant se rencontrer et s'épaissir. Cette fois-ci, on va fabriquer une chaîne de montagne avec des reliefs positifs et puis des reliefs vers le bas, des reliefs négatifs. Cette croûte continentale est trop légère pour s'enfoncer dans le manteau de la même manière que la croûte océanique. C'est pour cela qu'elle constitue cette chaîne de montagne, cet épaississement. Et lorsque la convergence s'arrête, eh bien, cette chaîne de montagne va être érodée et elle va disparaître. Elle est en déséquilibre gravitaire, la croûte continentale étant légère, et elle va donc disparaître. Donc on va reconnaître dans ce type de montagne ce qu'on appelle des montagnes jeunes, avec un relief encore bien représenté, des reliefs qui peuvent monter jusqu'à 8000 mètres d'altitude en Himalaya, pas plus. Ça, dans, en France, eh bien, ça va être la chaîne alpine. La chaîne alpine est pyrénéenne, hein, au sens géologique, c'est la même chose. Les Pyrénées font partie de la collision alpine, et qui d'ailleurs se poursuit vers l'est et jusqu'à la chaîne himalayenne. Et puis, comme chaîne ancienne, comme montagne ancienne, ça va être la chaîne hercynienne qui s'est fabriquée au Paléozoïque. Alors, j'ai mis montagne dans ce cas-là entre guillemets parce que effectivement il n'y a plus réellement au sens géographique il n'y a plus de montagne hein, mais au sens géologique on va persister à appeler ça des chaînes de montagne. Donc vous voyez que si on étudie la côte océanique in situ, la côte océanique actuelle sous les océans, eh bien on va pouvoir s'intéresser à ce stade-là hein, celui-là bien entendu à la rigueur le début de ce stade-là, mais on ne saura pas ce qui se passe dans les profondeurs du manteau lorsque cette lithosphère océanique retourne dans le manteau. Et ça, pour le voir, eh bien, il faudra aller dans ces chaînes de montagnes qui vont retenir des reliques de cette histoire. Alors, bien entendu, vous allez me dire, on ne va pas tout voir quand même dans ces chaînes de montagnes, on ne va pas voir tout le cycle de la lithosphère océanique depuis le début. Eh bien, si, pratiquement si. Vous savez que la croûte continentale ne s'arrête pas à la partie immergée, elle déborde sur la plateforme continentale ici, jusqu'à ce talus, ici, qui correspond à la marge passive. Et ensuite, nous avons les plaines abyssales à 3000 mètres de profondeur. En moyenne. Et cette plateforme continentale, elle est relativement peu profonde, hein, ce sont 200-300 mètres de profondeur, dans laquelle nous allons avoir une sédimentation biogénique, des organismes à test et à squelette calcaire, qui vont accumuler des sédiments calcaires, et qui constituent les calcaires de plateforme. Et c'est ce que l'on va voir dans le massif des Bauges, dans le massif de la Chartreuse, dans le massif du Vercors, en périphérie de la chaîne alpine, c'est ce qu'on appelle les massifs subalpins, ces trois massifs-là. Vous voyez qu'ils sont constitués d'une barre importante, d'en moyenne une centaine de mètres d'épaisseur, de calcaire de plateforme. Au passage, ici, nous avons le mont Aiguille. Et c'est pas la déformation relativement modeste dans cette périphérie de la chaîne alpine qui va rendre méconnaissable cette plateforme. Ici, vous avez le puits de Sassenage à proximité de Grenoble dans ces calcaires de plateforme. Éloignons-nous maintenant vers le large et observons ce qui se passe à la marge. Donc la marge, c'est un lieu où l'on passe progressivement du continent à l'océan, de la côte continentale à la côte océanique. Voici la géométrie un petit peu plus précise. La côte océanique s'amincit progressivement par une série de cassures superficielles, comme ceci, vers le large. Et on remarque que ces cassures ont une géométrie courbe ici, ce qui fait que lorsque les couches s'effondrent, glissent, descendent le long de ces failles normales, eh bien, elles vont basculer. Et ces structures-là, on les appelle des blocs basculés. D'autre part, vous avez vu que nous avons la moitié d'un graben, de ce rift que je vous ai montré tout à l'heure dans la croûte continentale. Et du coup, on appelle aussi ces structures des hémigraben. Alors, voilà un que je vais remettre dans le bon sens parce que la figure est inversée par rapport au schéma au-dessus. Enfin, je vais inverser le schéma pour que ce soit plus clair. C'est un petit panorama d'une échelle hectométrique hein, que certains ont vu il y a quelques années lorsqu'on est allé faire un tour dans les Alpes, au-dessus du bassin de Bourdoisan, à l'Alpe d'Huez. C'est le site des lacs Besson, un très joli site. Donc vous voyez ici les couches de calcaire dolomitique, ici, qui plongent vers la gauche. C'est ce que j'ai représenté sur cette coupe interprétative de ce panorama. Vous voyez qu'elles plongent et qu'elles vont obligatoirement s'interrompre puisqu'elles butent sur cette formation ici de socle. Nous avons une figure qui est tout à fait similaire à celle-ci, avec une échelle bien entendu qui est beaucoup plus petite. Mais dans les Alpes, ce ne sont pas seulement des petites structures de ce genre-là qu'on va rencontrer, on arrive à retrouver ces structures d'extension, ces structures de la marge continentale. On va les retrouver avec, à très grande échelle. Et pour cela, on va passer un petit peu dans un paysage à trois dimensions. Voici ces fameux lacs Besson, lac Noir, lac de la Faucille. Et je vous reporte la coupe qui va correspondre à ce panorama. Donc là, vous avez la troisième dimension. Vous remarquez ici les roches sédimentaires. Alors, les roches sédimentaires dans le bassin vont se s'user, vont s'éroder plus facilement, et donc le creux de ces émigraben vont bien être orientés par ces petites vallées, ces creux sur lesquels vont se former les lacs. Et là, nous en avons deux qui sont parallèles de ces bassins, ici, comme ceci, ces blocs basculés. Et la crête rocheuse qui sépare les deux petits bassins, ben, on la suit ici dans le paysage, et ici également. Donc, vous voyez un peu la troisième dimension de cette figure. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, nous dominons le bassin de Bourdoisan, qui est au-dessous, et cette longue crête, qui est la crête de Belle-Dôme. Et vous retrouvez la même disposition, la même géométrie, ici. Ce petit bassin, eh bien, il a son équivalent à beaucoup plus grande échelle, à échelle décakilométrique. Et la crête, ici, au-dessus, en bordure de cet émigraben, eh bien, c'est la crête de Belledonne. Et ça, sur les cartes, ça se voit très bien. Ces crêtes, c'est ce qui est dessiné ici en rouge. Vous voyez qu'elles sont très allongées. De temps en temps, on voit une petite lanière bleue. C'est les roches sédimentaires des fonds des petits émigrabens. Ici, on était là tout à l'heure. On va y revenir. Et en particulier, ici, vous avez la vallée de Chamonix. Cette vallée de Chamonix, c'est un émigrabel, c'est un petit gravel qui est coincé entre le socle du massif du Mont-Blanc et le socle des Aiguilles Rouges. Donc, toutes ces longues bordures, ces longues lanières, elles matérialisent les failles, les grandes failles de la marche de l'océan alpin. Alors, on va justement regarder le contact entre le bassin sédimentaire du Bourdoisan et le massif de Belledonne à côté. Voici cette limite, c'est un grand escarpement qui fait plus d'un millier de mètres de dénivelé ici. Et nous avons les roches sédimentaires du bassin de Bourdoisan qui s'appuient contre les roches de ce socle ici. Et si l'on s'approche, si l'on touche ce contact, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ces structures typiques, caractéristiques des failles. Ici, des failles avec de la calcite qui est venue se former et des stries qui montrent le déplacement relatif, la direction de déplacement et les critères que l'on peut regarder dans les détails montrent que l'on a effectivement une grande faille normale, donc avec un jeu qui fait un minimum un millier de mètres et en fait qui se prolonge en profondeur et qui a été estimé jusqu'à 3000 mètres de dénivelé. Donc vous voyez que ces failles de la marge alpine, de l'océan alpin, sont parfaitement conservées. Alors que nous sommes maintenant dans une chaîne de montagnes dans laquelle il y a eu de la déformation, de la compression. Alors, continuons notre parcours vers le large. On va maintenant regarder les roches de la croûte océanique. Et il faut rappeler qu'on distingue deux, simplement, en simplifiant un petit peu, on va distinguer deux types de lithosphère océanique. Celle-ci qui est celle que l'on trouve dans l'ophiolite dormant que je vous ai montré tout à l'heure, je vais y revenir un instant. Dans ce schéma-là, c'est le schéma qui a été proposé dans les années 70, précisément en 1972, à la Penrose Conference. On a montré que cette croûte, cette lithosphère océanique était constituée de trois premières couches disposées parallèlement qui reposaient sur un manteau. Alors pourquoi on appelle ça la couche 1, 2, 3 au lieu de donner des noms géologiques? Parce que ce sont les géophysiciens qui nous ont donné ces découpages, et à l'époque, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la lithologie de ces différentes couches. Bon, ensuite, bien entendu, on les a retrouvées. Alors, la croûte, elle est limitée par la discontinuité de Moro, l'abréviation de Mororovici, enfin, on va simplifier comme tout le monde, la discontinuité de Moro. La couche 3, que je vais appeler les gabbros, on verra tout à l'heure, la couche 2, qui sont des filons basaltiques, et la couche 1, qui sont les lavandes coussins que l'on a déjà vues. Donc, uniquement des roches la magmatique. Bon, puis par dessus, bien entendu, il peut venir se déposer des sédiments, mais là, je n'ai fait abstraction. Ça, c'est le schéma classique. Et puis, il y a une deuxième croûte océanique qui est, elle, qualifiée de hétérogène, parce qu'effectivement, vous n'avez pas cette succession de trois couches, mais vous avez le manteau qui arrive juste, qui peut arriver jusqu'à la surface, c'est-à-dire la surface des fonds océaniques, et qui est traversé, qui est parcouru de boules, de billes, de la roche équivalente, ici, que j'ai appelée le gabbro. Et dans ce manteau, on va avoir, de manière hétérogène, des masses, des boules de gabbro. Et localement, et de manière discontinue, on peut avoir aussi des laves, bien entendu, qui vont reposer sur ce manteau. Alors, vous remarquez que la couleur du manteau, elle change selon à la verticale. Ici, il est vert clair, puis il passe à vert plus sombre. Ceci pour exprimer sa transformation en fonction de la proximité avec l'hydrosphère, avec l'eau océanique. Ce manteau, ici, qui est une roche complètement anhydre, bien entendu, ou quasiment anhydre, à très grande profondeur, et bien il s'hydrate progressivement, il se transforme progressivement à une roche que l'on appelle une serpentinite. On va y revenir, on va regarder cette fameuse serpentinite. Alors, un petit coup d'œil rapide sur la croûte océanique classique. La première, disons, qui a été définie. Le terme de classique, je ne sais pas s'il a un sens. Donc, c'est un moment, vous voyez, effectivement, la superposition de ces trois niveaux, les gabbros, les filons, et les laves extrusives, les laves basaltiques. Alors voilà, voici ce que ça donne. Le manteau, qu'on voit très bien en amont, sur des très grandes superficies. Ce manteau séparé du gabbro par la discontinuité des moraux. Ici, on la voit très bien, c'était absolument extraordinaire. Vous avez ici les roches du manteau, et vous avez au-dessus les gabbros de la croûte océanique. Alors c'est un moment quand même assez fort de passer la nuit au moulin et de prendre un petit déjeuner au moulin, encore une fois. Donc au-dessus de ce moulin, nous avons ces gabbros, de très belles roches, avec une structure litée caractéristique, on les appelle d'abord d'ailleurs les gabbros litées, avec une minéralogie qui est variable, vous voyez, avec la couleur, on a des minéraux sombres, on a des minéraux clairs. Ce passage d'un minéraux sombre au minéraux clair se fait de manière progressive. Alors ça vous permet de comprendre dans le détail les processus de différenciation de ces roches magmatiques. Il y a de quoi vous m'occuper des géologues et des pétrologues pendant longtemps. Et voici le détail disons, de la minéralogie de ces roches, qui est relativement simple. C'est essentiellement des minéraux blancs qui sont du plagioclase. Le pyroxène qui est gris. Et parfois, ça ne sera pas toujours le cas, mais parce que j'ai pris évidemment un échantillon où on voyait tout, parfois on a en plus cette olivine, ce troisième minéral. Mais revenons sur l'autre type d'ophiolite, parce que c'est celle que l'on va trouver dans notre pays, en France, c'est uniquement cette croûte océanique hétérogène qu'on va retrouver. Donc ici, vous avez une reconstitution de notre globe, de notre Europe occidentale et Afrique, qui est un peu inhabituelle, bien entendu, qui ne ressemble pas trop à ce qu'on connaît maintenant. C'était avant l'unification européenne, on va dire, en fait. Et même la réunification allemande. Donc vous remarquez, donc on voit la France ici, vous remarquez que l'Espagne a une position aussi un peu bizarre, elle est à gauche de la France, là aussi on peut se dire qu'il y a peut-être, on comprend des fois peut-être que les Basques et les Bretons s'entendent si bien, parce qu'il y a quelques 150 millions d'années, ils étaient à proximité. Et puis voilà notre petit océan alpin, l'océan alpin, et l'Italie est quelque part dans tout ce marasme-là, rattaché plus ou moins solidairement avec l'Afrique. Donc cet océan alpin, c'est un petit océan, il n'a jamais été important. Il est relié, bon il va se relier à l'ouest avec l'océan Atlantique qui commence son histoire à cette même époque-là. Et là, bon, là ici on s'ouvre vers l'est, vers un énorme océan qu'on peut qualifier d'équivalent à l'océan Pacifique actuel. Alors, cette lithosphère océanique hétérogène n'a pas du tout le même aspect. Vous voyez qu'effectivement, on n'a pas la superposition comme précédemment. Ici, c'est un bloc diagramme donc, qui a été proposé par mes collègues Gabrielle et Cana, le diagramme que j'aime bien, dans lequel nous avons ici le manteau. Vous voyez, donc ça ici constitue le plancher océanique. Le manteau qui affleure donc au plancher, qui va être hydraté. Il est serpentinisé, et on va voir tout de suite à quoi ressemblent ces serpentinites. Des gabbros qui recoupent en poches irrégulières, et par-dessus, bien entendu, on a localement des édifices volcaniques dans lesquels on va trouver ces laves en coussin. Donc au passage, voilà la roche du manteau, l'aspect qu'elle a pris, hein, cet aspect de peau de serpent qui lui vaut ce nom de serpentinite, et qui vaut d'ailleurs le nom aussi à la formation d'ophiolite. Hein, ces roches de la lithosphère océanique posées sur les continents sont appelées ophiolites parce que cette serpentinite, cette roche à peau de serpent, est particulièrement abondante, en particulier dans les Alpes françaises. Donc un affleurement typique montrant cette superposition un peu surprenante, un peu inhabituelle, a priori, disons, où on a au sommet les basaltes en coussin, qui sont reposés directement sur le manteau hydraté, et le gabbro qui se trouve en dessous, qui est donc en place à l'intérieur du manteau. C'est encore un panorama du massif du Chenelier, sur lequel enfin, on s'est promené il y a quelques années, malheureusement, avec une météo assez peu favorable. Donc là, nous avons vu les roches océaniques relativement superficielles, mais ces roches océaniques, elles vont aller en profondeur. Et comment va-t-on faire, nous, pour les observer et pour les étudier? Bien, d'abord, il faut comprendre pourquoi ces roches qui étaient en surface et qui ont été enfouies en profondeur vont remonter. Lorsque cette croûte continentale ici s'épaissit au cours de la convergence, nous avons donc des reliefs positifs que nous connaissons bien entendu, que l'on voit jusqu'à 8 km d'altitude. Et puis nous avons ces racines beaucoup plus profondes qui descendent encore plus profondément, hein, qui sont ces reliefs négatifs, moi je les appelle comme ça, les reliefs négatifs qui sont beaucoup plus importants que les reliefs positifs. Alors, un exemple un petit peu plus réaliste, c'est la chaîne des Pyrénées. Ici, vous voyez que la croûte espagnole, la croûte continentale espagnole a eu tendance, maintenant c'est un peu calmé, elle a eu un petit peu tendance à venir passer sous la France, et ça a créé un épaississement assez remarquable. Et du coup, si cette croûte est épaissie, eh bien, lorsque les forces de convergence vont s'interrompre, eh bien, elle va revenir à une épaisseur normale, parce que l'érosion va enlever les roches qui se trouvent dessus, et parce que cette croûte est beaucoup plus légère que son environnement, hein, et pour le simple principe de gravité, eh bien, les roches légères remontent vers la surface, sont repoussées vers la surface. Alors ces roches qui sont allées en profondeur, elles sont très reconnaissables. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on voit leur aspect, on se dit « Ah, ça, c'est allé loin ». Parce que ça a pris une allure assez caractéristique. Hein, on voit quelque chose qui a été déformé de manière plastique, de manière ductile, un petit peu comme dans la pâte à modeler. Hein, au lieu d'avoir des roches qui se cassent comme en surface, les roches sont fragiles pour nous à la surface. Mais on voit qu'elles sont descendues à des profondeurs où la température devait être très élevée, et elles sont devenues ductiles, elles ont été formées de manière plastique. Alors ça, on en trouve de partout, hein, à proximité dans la région. C'est un affleurement qu'on a vu ensemble il y a quelques années aussi, dans le Val d'Allier, sur la route à côté de la Vouchillac. Vous avez ce très bel affleurement. Alors, c'est une chose de dire que les roches sont allées en profondeur, mais maintenant il faut savoir jusqu'où elles sont allées et comment on va pouvoir l'estimer. Alors lorsque les roches sont enfouies en profondeur, eh bien elles vont se transformer. Elles vont recristalliser à l'état solide. C'est-à-dire on ne fait pas intervenir de magma ni quoi que ce soit. Je prends une roche constituée de deux minéraux A et B, et elle est enfoncée, elle va se transformer en un minéral C avec A ou B qui va persister, je ne sais pas. Avec cette structure, cette transition là, qui est assez caractéristique, je vous en montrerai d'autres, elles sont très utiles pour nous autres pétrologues, pour comprendre l'histoire de cette roche. Et ceci se fait selon des réactions chimiques, ou minéralogiques, on peut leur donner les deux noms, c'est la même chose, si on peut parler en termes de minéraux ou en termes de composition chimique. Et ce processus, cette transformation, cette métamorphose des roches, on appelle ça le métamorphisme. Et vous voyez la roche ici qui était en surface, qui est enfouie en profondeur. Elle n'a plus du tout le même aspect, alors je vais regarder ça d'un peu plus près. La première, j'ai pris bien sûr une roche de la côte océanique, c'est ce fameux gabbro, qui est constitué de deux minéraux caractéristiques, essentiellement le pyroxène et le plagioclase. Alors le pyroxène, c'est un minéral marron, puis le plagioclase qui forme des tablettes rectangulaires sans orientation particulière ici. Et cette roche se transforme en profondeur à une autre que l'on appelait une éclogite, dont la composition minéralogique typique c'est aussi du pyroxène, mais ce pyroxène est différent de l'autre. Il n'a pas la même couleur, mais il n'a pas aussi la même composition chimique. Et du grenat. Puis il s'ajoute un autre minéral ici, qu'on aura l'occasion de revoir par la suite. Mais la composition de la roche est identique dans les deux cas. Pratiquement identique. En première approximation, on dit que cette transformation est isochimique, qui n'a pas de modification chimique. Donc ces transformations se font par des réactions chimiques que les thermodynamiciens savent très bien positionner en fonction de l'évolution de la température et de la pression, en fonction des paramètres physiques. Donc sur un diagramme, ici, de profondeur, la profondeur et la pression, ça revient au même. Lorsque les roches sont enfouies, elles supportent la pression, le poids des roches qui se trouvent au-dessus. Donc je peux très bien exprimer ça de la manière que je veux. Donc moi, je vais continuer à parler en termes de profondeur. Et on sait également qu'à l'intérieur du globe, parfois il fait chaud, la température augmente avec la profondeur du globe, dans le globe. C'est d'ailleurs ce qui explique toute la vie, toute l'activité de notre globe terrestre. Donc cette augmentation de la température dans le globe, d'ailleurs, dans une zone de croûte continentale tranquille, hors chaîne de montagne, elle est matérialisée par cette courbe ici, et l'augmentation qui devient assez importante. Donc une roche qui est enfouie, elle va avoir une histoire, elle va parcourir un trajet à l'intérieur de cet espace pression, cet espace temps. Profondeur, la température, la roche qui est enfouie, donc la pression augmente, et puisque en profondeur la température augmente, sa température va également augmenter. Et donc les réactions, les transformations minéralogiques, on sait les positionner dans cet espace. En conséquence, si on fait ces observations-là, on va pouvoir chiffrer la pression, la température supportée par les roches qui sont enfouies. On connaîtra leur profondeur maximale de parcours et les températures qu'elles auront supportées. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure maintenant, c'est faire suivre ce trajet, ce parcours de la croûte océanique dans un diagramme de ce type-là, alors dans lequel j'ai reporté différentes lignes correspondant à ces différentes réactions. J'en ai pris quelques-unes. Alors justement, ce type de diagramme, on va appeler ça une grille pétrogénétique, parce qu'on avait un petit peu de grillage partout, avec des lignes à droite, à gauche. Donc il y a ces lignes sur lesquelles qu'on réutilisera tout à l'heure. Et puis il y en a une ici un petit peu qui a un statut un petit peu particulier parce que elle ne correspond pas à des transformations à l'état solide. Tout ça, ce sont le domaine où les roches recristallisent à l'état solide, le domaine du métamorphisme. Mais là, on va passer au domaine où la roche fond. Bon, ce domaine est roche magmatique, si vous voulez. Et cette courbe, d'ailleurs, on l'appelle le solidus. Donc lorsque on est à gauche du solidus, les roches sont rigides. Lorsqu'on est à droite, les roches peuvent commencer à fondre. Ensuite, j'ai fait des découpages ici de couleurs différentes, auxquelles on a donné des noms ici. C'est ce qu'on appelle les faciès métamorphiques. C'est tout simplement pour pouvoir discuter rapidement, dire que je suis dans les conditions du faciès amphibolite, mais ça veut dire que je suis dans des conditions ici où la pression varie de 1 à 10 kilobars, la température est élevée de 500 à 600 degrés. Donc ce sont des découpages qui sont pratiques pour la discussion entre géologues. Voilà, donc nous allons essayer de suivre ce long parcours, ce yo-yo de la croûte océanique. Donc cette histoire, eh bien, on va le faire grâce à la pétrographie, c'est-à-dire l'observation des roches. Donc si l'observation macroscopique, on repère cette structure bien caractéristique des réactions que l'on observe au microscope, on regarde son évolution, cette transformation qui nous permet ensuite de nous positionner sur ce diagramme profondeur-température, et ensuite eh bien, on peut revenir à l'histoire géodynamique, à la dynamique de la Terre. Alors commençons par la première étape, hein. Ces roches proviennent du manteau. Donc où est-ce qu'on va trouver du manteau dans notre pays? Mais je vous ai parlé tout à l'heure du Monte Maggiore en Corse, c'est un site absolument merveilleux. On a sur plusieurs kilomètres carrés, avec une qualité d'affleurement idéale, de superbes roches du manteau profond. Alors il faut bien sûr aussi citer cet affleurement historique, c'est l'étang de l'Hertz en Ariège. C'est un étang de l'Hertz qui a été défini l'alerzolite, c'est-à-dire une des roches qui constitue ce manteau. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute cette terminologie, mais disons que c'est à l'Hertz dans les Pyrénées que l'on a étudié les premières roches du manteau. Ce site se trouve un petit peu au-delà de nos frontières, mais pas très loin, et il est quand même spectaculaire également parce qu'il représente une superficie de presque une centaine de kilomètres carrés, hein, ce qui est assez remarquable d'arriver à voir un affleurement aussi important du manteau. Et il est traversé ici par le rio Ondania qui permet d'avoir des affleurements, faire des observations superbes. Alors, de quoi est constitué ce manteau profond? Eh bien, il est principalement constitué de deux minéraux, ou deux familles de minéraux, de l'olivine, donc c'est un minéral qui est ici orangé, et puis les pyroxènes. Alors, j'ai mis pyroxènes parce qu'en fait, ils ont plusieurs cousins, hein, et qui sont représentés ici par les minéraux marron et vert. Enfin, bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail, pas très visible. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est quelques minéraux supplémentaires que l'on peut trouver dans ces roches. Ces minéraux qu'on appelle accessoires, parce qu'ils sont en petite quantité, et pourtant, ils sont loin d'être... c'est pas parce qu'ils sont accessoires qu'ils ne sont pas importants. C'est en particulier ce petit minéral noir, ici, qui s'appelle le spinel, et qui est entouré, ici, d'une couronne blanche. C'est-à-dire que là, on a une transformation de ce spinel en réaction avec d'autres minéraux pour donner cette couronne de plagioclase blanc. Autre observation que l'on peut faire sur ces sites, c'est des petites gouttelettes de ce plagioclase qui se disposent à la limite des différents cristaux. Alors là encore, on observe l'olivine et puis les pyroxènes, brun ou vert, selon le cas, selon la visibilité que vous pouvez en avoir. Et ça, c'est le manteau, c'est-à-dire cette péridotite, qui commence à fondre. C'est du magma interstitiel qui commence à apparaître dans ce manteau. Ce magma, lorsque sa proportion augmente, eh bien, il va se réunir le long de petits filonnets. Ces filonnets qui se placent entre les cristaux de la péridotite, qui vont devenir de plus en plus importants. Et comme on dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Donc voilà ces petits filonnets qui se poursuivent. Et maintenant, vous avez ici la pièce qui vous donne l'échelle. On va changer d'échelle et vous observez dans le paysage à nouveau des filons. Cette fois-ci, ils ont une épaisseur beaucoup plus importante. Et lorsqu'on les regarde de près, effectivement, ils ont 50 cm, 1 mètre d'épaisseur. Et ce sont ces fameux gabbro, c'est-à-dire ces roches de la croûte océanique, c'est le magma qui s'est formé par la fusion de ce manteau qui va circuler dans ces filons, et il y a de fortes chances qu'on va les retrouver un peu plus haut. Alors pour l'instant, revenons sur notre figure pour interpréter ces observations. La première, donc, ce sont ces petits plagioclases qui entourent le spinel. Donc le spinel est entouré ici par le plagioclase. Et si on regarde un petit peu en détail au microscope, ce que je n'ai pas fait ici, mais en fait, on va s'apercevoir que c'est cette réaction-là qui intervient pour faire cette transformation, pour développer cette belle couronne de plagio autour du spinel. Dans cet espace pression température, eh bien, nous avons cette courbe ici, qui a une pente qui est très faible. Ça veut dire que pour la franchir,
pour former du plageau à partir du spinel, eh bien, il va falloir diminuer la profondeur. C'est-à-dire que on visualise ici l'exhumation de ce manteau. Et ce manteau va continuer son exhumation et il va franchir le solidus, cette ligne qui de partage entre le domaine solide et le domaine magmatique. Et les petits filonnets que nous avons observés tout à l'heure montrent bien ce franchissement de ce solidus et les roches vont continuer leur ascension en fondant. Et puis bien entendu, ben nous les observons maintenant, elles sont refroidies, elles sont consolidées, ça veut dire qu'elles ont à nouveau franchi ce solidus pour devenir des roches. Donc vous avez là déjà un début du parcours de ces roches de la côte océanique et ça peut être la première étape ici, au début de la dislocation de ce continent, la fusion du manteau et la production de magma qu'on va retrouver maintenant vers le haut, puisqu'il va migrer à la faveur de ses filons, il va migrer vers la surface. Et dans le massif du Chenaillé, il est représenté par ces grosses boules donc, de gabbros au sein des roches du manteau. Alors, cette roche, ce gabbro, c'est du pyroxène et du plagioclase. Je vous ai déjà montré tout à l'heure. Je ne vais pas insister là-dessus. Vous avez remarqué que ce gabbro n'avait pas d'orientation préférentielle, mais parfois on remarque qu'il peut être très orienté. Et ça, c'est une caractéristique de la déformation. C'est les roches qui sont déformées de manière plastique qui prennent cette structure. Ce n'est pas une structure linéaire, en fait ce sont des plans, bien entendu. Mais nous voyons une surface de l'affleurement, ce sont des plans qui découpent d'ailleurs des boudins ici moins déformés. Cette déformation elle est assez irrégulière, elle est assez hétérogène. Alors en général, quand ces roches sont déformées, ce qu'on va remarquer, alors vous retrouvez ici discrètement la surface planaire, ici vous voyez l'orientation, hein, ce n'est plus le gabbro sans orientation particulière, et vous remarquez que les minéraux ici sont séparés, les minéraux blancs et les minéraux vert clair sont séparés par un liseré plus sombre, ici assez systématique. C'est ces transformations métamorphiques, avec ici donc sur un échantillon avec une photo, le pyroxène entouré de ce minéral noir que l'on retrouve d'ailleurs dans les plans ici, dans ces plans-là, et on va regarder ça au microscope, et au microscope on va trouver le pyroxène séparé du plagioclase par cette couronne d'amphibole ici. Et la transformation, ben, elle est facile à écrire, pyroxène plus plagioclase plus amphibole. Alors la réaction, je la vois. Ensuite, je vais la compléter lorsqu'il me manque, pour équilibrer la composition chimique, il me manque en particulier de l'eau. Hein, ça, c'est la vapeur d'eau, parce que ceci, ce sont des minéraux anhydres, et ça, c'est un minéral hydraté. Donc je peux ajuster, bien entendu, la composition de cette réaction. Parfois, les structures que l'on peut observer sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressantes. Par ailleurs, vous voyez ici le pyroxène qui est désagrégé et qui se transforme en cet amphibole qui a une couleur brune. Puis cette amphibole brune, ici, change de couleur. Elle devient verte et puis elle disparaît ici. Elle se termine par des petites aiguilles incolores. C'est toute la transformation qui est très progressive et que l'on va bien entendu interpréter maintenant sur ce diagramme. Cette fois-ci, la réaction qui intervient, elle, est ici, avec une pente qui est infinie, c'est-à-dire elle est verticale sur ce diagramme. Ça veut dire que pour la franchir, pour former cette amphibole à partir de ce pyroxène et du plagiot, il faut la franchir comme ceci, avec dans le sens d'un refroidissement. Et ceci, je vais l'interpréter comme étant le refroidissement de ce gabbro qui s'est mis en place dans la croûte océanique. Le magma s'est consolidé en gabbro et ensuite ce gabbro refroidit lorsqu'il s'éloigne de sa zone de formation, ici de la ride océanique. Alors bon, Tout ceci, c'est très visuel, mais bien entendu, le géologue, il va quand même travailler un petit peu avec des outils mathématiques, il va quand même essayer d'aller plus loin que ces simples figures assez simplifiées. Et pour ça, on va utiliser la composition chimique de ces minéraux, et on va utiliser des géothermomètres, ou des géobaromètres. Ici, c'est une abaque dans laquelle vous avez la composition chimique de certains d'un minéral qui va être représentée en fonction des paramètres pression et température. Alors parfois on utilise des équations, mais ici je trouve que ce diagramme est visuel et beaucoup plus agréable. Donc il est indiqué sur cette figure là la composition, les variations de la composition en alumine et en titane de cet amphibole. Donc cet amphibole, je vous ai fait remarquer que sa couleur passait de brun à vert, hein, et cet changement de couleur est très significativement représentatif de la variation d'un élément particulier, c'est le titane, hein, des valeurs qui vont varier de 2 à 2% de titane, de TiO2, un oxyde, jusqu'à pratiquement 0. Et ça, ben, ma foi, on peut le chiffrer sur ce diagramme. Vous voyez que à haute température, les teneurs en titane sont élevés, tandis qu'à basse température, ces teneurs sont beaucoup plus faibles. Donc là, on a un très bon thermomètre qui nous indique que, au fur et à mesure de la formation de cette amphibole, elle change de couleur, et ce changement de couleur suppose, s'interprète, s'explique par une cristallisation avec une température décroissante. Notre gabbro est bien en train de se refroidir. Alors là, je vous ai expliqué que, ma foi, cette déformation, ce métamorphisme se faisait au cours de l'océanisation, très simplement, dans une histoire extrêmement simple. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans une chaîne de montagnes. Alors quand on parle de déformation, quand on parle de métamorphisme, on a plutôt tendance à se dire, bon, il y a de la compression, etc. Donc pourquoi interpréter ceci comme étant lié à ce stade d'océanisation, c'est-à-dire un stade d'extension, hein, on ouvre, on écarte, hein, et pourquoi pas, plutôt le stade ultérieur, plus tardif de la collision, après la fermeture de cet océan, de la formation de la chaîne de montagne. Donc ça, il faut qu'on arrive à faire cette chronologie de ces trois événements, magmatisme, déformation, métamorphisme, en fonction des considérations géodynamiques. Est-ce que ceci est contemporain, tout contemporain de l'océanisation, ou au contraire, une partie, la déformation et le métamorphisme, se fait au cours de la collision à l'origine de la chaîne de montagne. Alors pour ça, je vais prendre un exemple qui est relativement joli, qui est assez simple, c'est la présence de filons de gabbro à l'intérieur, des filons de basalte qui recoupent ce gabbro. Alors ces filons, s'ils recoupent le gabbro, ça veut dire qu'ils se sont mis en place après. Je fais une chronologie. Donc ça, c'est parfois c'est quelque chose que l'on comprend assez bien, hein, dans notre croûte océanique. Le gabbro s'est mis en place, il s'est refroidi, et ensuite, eh ben, ma foi, les basaltes recoupent et viennent constituer les volcans de la partie superficielle sur la croûte. Donc ces filons de basalte sont bien contemporains de l'océanisation. Ils sont un peu plus récents que les gabbros, mais ils font partie de cette histoire de la formation de l'océan. Or, certains de ces gabbros montrent une déformation, comme je l'ai fait remarquer, mais une déformation, et on a la chance parfois de l'avoir coupée par un de ces filons. Et on constate que le filon, donc la déformation et le métamorphisme, vous remarquerez quand même qu'il y a des minéraux noirs, on a ici une roche qui est à la fois déformée et métamorphisée, et par contre le filon, lui, n'est pas déformé, il n'est pas métamorphisé. Vous voyez, cette orientation ici ne se prolonge pas à l'intérieur du filon de basalte, et quand on le regarde au microscope, il n'a pas d'orientation particulière. Donc, la déformation, le métamorphisme, est bien contemporain de l'océanisation, puisqu'il est antérieur à la mise en place du filon de basalte, qui est lui-même, qui appartient à cette océanisation. Alors, il y a un autre exemple qui est encore plus beau pour les personnes qui connaissent bien la lithologie des roches métamorphiques. Ici, nous avons un amphibolite, c'est-à-dire une roche métamorphique, Cette roche est métamorphique provient d'un gabbro, mais ce gabbro est maintenant méconnaissable. Il est très déformé puisqu'il y a cette orientation. Et il est transformé complètement en amphibole, il ne reste plus de pyroxène. Et pourtant, cette amphibolite, cette roche métamorphique, est recoupée par un filon basaltique qui, lui, n'est pas déformé. Donc voilà pour vous montrer quand même que, évidemment, il faut s'appuyer quand même sur quelques arguments pour faire ces démonstrations. Mais on va continuer maintenant notre histoire, l'histoire de cette croûte océanique, de ce gabbro en particulier. Lorsque l'océan va se refermer, hein, lorsqu'il va passer sous la marge active. Alors, il faut se replacer un petit peu géographiquement dans les Alpes par rapport à la figure précédente que je viens de vous montrer. Et pour cela, je vous présente la carte métamorphique des Alpes, une carte qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir, des cartes géologiques qui sont des cartes lithologiques. Celle-là va nous indiquer les conditions de profondeur et de température des roches qui sont colariées d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez que lorsqu'on va de l'ouest vers l'est, ici on sort des Alpes, à Turin, ici on est sorti des Alpes, lorsqu'on va de l'ouest vers l'est, eh bien, la succession de ces couleurs indique que l'on a une augmentation de la profondeur et avec une augmentation de la température qui reste relativement modeste. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, on a une augmentation de la pression, c'est-à-dire de la profondeur, en allant depuis l'ouest vers l'est. Donc les roches superficielles sont à l'ouest, et plus on va vers l'est, plus les roches que nous rencontrerons sont des roches profondes. Et ça nous permet de faire une reconstitution simplifiée des Alpes il y a, disons, une quarantaine de millions d'années, juste à la fin de la fermeture de cet océan alpin, juste avant la collision. Voilà, donc la subduction de cette lithosphère océanique se faisait vers l'est, sous l'Italie, hein, l'Europe, la croûte océanique qui se trouvait en marge de l'Europe, vient plonger sous l'Italie. Alors bien entendu, ce que l'on observe maintenant, ce n'est pas le simple basculement de cette formation-là, hein, qui se serait juste redressée. En fait, c'est un peu plus compliqué dans le détail, hein, on va avoir une tectonique complexe qui vont ramener ces roches à la surface, mais quand même, on conserve bien cette disposition de la subduction alpine actuellement dans les Alpes. Donc allons un petit peu plus à l'est, dans le vallon de Clausis, dans le Queyras. Nous retrouvons ces boules de gabbro, comme tout à l'heure dans le Chenaillet, mais ces boules de gabbro vont montrer des minéraux caractéristiques. Ils sont des baguettes de couleur bleu marine, presque noire. Parfois on a du mal macroscopiquement à voir qu'elles sont bleu marine. Ça va être beaucoup plus visible au microscope. Et ces baguettes caractéristiques, c'est une amphibole bleue que l'on appelle le glaucophane. Et c'est un glaucophane qui est typique de ce contexte de subduction. Alors sur une autre photo, ici, on reconnaissait mieux la couleur bleue de ce glaucophane. Et puis nous avons un deuxième minéral ici, qui est un minéral jaune, qui est de l'épidote. Mais reprenons un petit peu notre gabbro avec sa structure magmatique initiale. Hein, vous voyez ce qui a été du plagioclase. On voit encore des pyroxènes. Hein, on retrouve bien cette structure du gabbro. Hein, là encore, on a les pyroxènes du gabbro, mais qui sont maintenant séparés de l'ancien plagioclase par un liseré ici, partout, encore une fois, cette couronne typique d'une évolution métamorphique. Donc voici ce gabbro qui, lorsqu'il s'enfonce, va se transformer, et le pyroxène est entouré de cette amphibole bleue, ce glaucophane. Donc c'est comme tout à l'heure, nous avions déjà une amphibole, elle était brune, elle était verte, maintenant elle est bleue, vous voyez que les couleurs sont changeante, c'est ce qui est sympathique, c'est qu'on va retrouver l'ensemble de ces différentes couleurs. Donc voici une roche qui a préservé donc le pyroxène, mais qui préserve également la première étape de l'évolution du gabbro lorsqu'il se refroidit, et la deuxième étape lorsque ce gabbro s'enfonce dans la zone de subduction. voyez un petit peu la mémoire de cette roche, la quantité d'informations qu'elle conserve. Ce sont des millions d'années là, qui sont enregistrées. Alors là, pour le plaisir des yeux, je vous montre quelques photos où on voit encore cette amphibole brune et cette amphibole bleue. Ça, je ne sais pas, c'est un peu, petit peu pour mon plaisir, hein, j'adore ça. Et là, vous avez l'amphibole avec sa géométrie caractéristique, triangulaire, hexagonale, et avec aussi, si vous distinguerez, pour ceux qui connaissent un petit peu au microscope, les clivages typiques d'amphiboles, donc une amphibole brune, une amphibole verte, une amphibole bleue. Donc ça c'est idéal, c'est merveilleux pour le géologue, hein. Nous avons la trace de cette première étape du refroidissement, et nous avons la trace de cet enfouissement. Pardon. Vous voyez la limite du domaine où la glaucophane peut exister, c'est cette abréviation GLN ici, le glaucophane, ce glaucophane-là, et on va retrouver cette roche avec ce minéral bleu dans ce domaine-là, ce minéral bleu qui a donné du coup le nom à ce domaine, ce faciès, comme je l'ai appelé tout à l'heure, c'est le faciès schiste bleu, caractérisé par ce minéral assez typique, la couleur bleue n'étant pas une couleur très commune dans les minéraux des roches naturel. Donc voici après l'interprétation géodynamique, ce gabbro est en train de s'enfouir sous l'Italie. Continuons vers l'Est, puisque vers l'Est ce sont les roches qui sont encore plus profondes. Ici au Mont Viso, on a un énorme affleurement magnifique de cette croûte océanique, le Mont Viso culmine à près de 4 mm, un petit peu moins, malheureusement il a perdu quelques cailloux à son sommet, quelques laves en coussin qui sont tombées, qui fait qu'il n'est plus à 4 mm d'altitude, mais par contre il est allé beaucoup plus profondément que le vallon du Clausis. Il est allé de l'autre côté, lui, à une quarantaine de kilomètres de profondeur. Alors qu'est-ce qu'il va nous en apporter comme témoignage? Eh bien, ce sont ces roches ici, en boudin, je vous ai parlé tout à l'heure de ces structures très particulières. Ce boudin constitué de minéral rouge et d'un minéral vert, typique de l'éclogite, avec le pyroxène vert, le grenat rouge et quelques autres minéraux qui vont nous être bien utiles ici. On reconnaît notre minéral bleu, c'est l'amphibole, regardons au microscope. Voilà la forme géométrique hexagonale de cet amphibole, de ce glaucophane, le clinopyroxène vert. Le grenat rose, assez pâle au microscope, et puis un 4R. Alors il y a quelques minéraux ici, ce sont des oxydes métalliques, parce qu'évidemment il y avait un petit peu de fer et de titane dans cette roche. Et puis un quatrième minéral ici qui est l'épidote. Et cet épidote-là, ce glaucophane et cet épidote, vont nous permettre de très bien situer cette roche, et de bien quantifier les profondeurs que cette roche a atteint et à quelle température les a atteintes. Donc nous sommes maintenant dans ce faciès éclogite, caractérisé par cette roche. Ça glissera mieux comme ça, peut-être. Donc le faciès éclogite, ici, avec les deux minéraux caractéristiques, et puis le glaucophane, l'amphibole bleue, qui n'existe qu'à une température inférieure à 500-550 degrés. Donc nous sommes à gauche de cette ligne-là. Et puis nous sommes aussi à droite de cette ligne ici, puisque le domaine de l'épidote est limité à basse température par cette réaction. À plus basse température, on a un autre minéral ici, que l'on peut aussi observer. Mais pour l'instant, nous avons donc cet épidote, donc nous sommes à droite de cette courbe, et le glaucophane à gauche. Donc nous savons que cette éclogite s'est formée dans ces conditions, ici, qui a une cinquantaine de kilomètres de profondeur, entre 40 et 60 kilomètres, et une température qui est de l'ordre de 500-550 degrés. Après, on utilisera des outils dynamiques, pour être beaucoup plus précis, mais vous voyez que déjà, avec ce petit diagramme très simplifié, on arrive à avoir des informations qui sont intéressantes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, cette roche et cette éclogite? Elle a deux solutions. Soit elle remonte, et ça serait mieux pour nous pour qu'on la voit, soit elle va continuer son chemin en profondeur. Avec effectivement la lithosphère océanique qui subduit, eh bien, s'enfonce dans le manteau et elle va y séjourner à plusieurs centaines de millions d'années, peut-être milliards d'années. Mais parfois, on a quand même quelques échantillons par le biais de mécanismes un peu complexes de la tectonique, quelques échantillons qui vont remonter vers la surface et cela, eh bien, nous allons pouvoir les observer. Alors les autres, parfois, on les retrouve dans les enclaves remontées par les volcans. Alors, les volcans remontent des fois des morceaux de l'intérieur de la Terre et on retrouve parfois ces éclogites qui ont fait ce parcours assez étonnant. Alors voici un affleurement que j'aime beaucoup parce qu'il apporte toute l'information. Il a enregistré toute l'exhumation de cette éclogite qui était descendue à 50 km de profondeur. Ici, nous retrouvons notre petite lentille d'éclogite. Au microscope, on retrouverait le minéral, le pyroxène vert et le grenat rouge. On retrouve ici aussi encore de l'éclogite, mais cette fois-ci, cette éclogite, elle est emballée dans une roche dans laquelle la couleur bleu domine, c'est-à-dire le glaucophane. Donc là, c'est une roche, ici et là, c'est l'éclogite que l'on vient de voir, et autour, cette éclogite est enveloppée par la roche du faciès schiste bleu, c'est-à-dire de profondeur inférieure. Et encore, troisième observation, c'est que ce morceau d'éclogite, lui, il est entouré d'une autre roche qui a une couleur beaucoup plus pâle et qui va correspondre à des conditions de plus basse, de plus faible profondeur. L'éclogite se trouvait dans le faciès éclogite. Elle a traversé le faciès schiste bleu qui est enregistré ici dans cette partie de la roche. Et puis ici, ce sont les conditions de ce faciès schiste vert qui se trouve à des profondeurs plus faibles qui est retenu. Donc ce bel affleurement qui fait quelques mètres carrés enregistre les différentes étapes de cette exhumation de la roche. En conséquence, vous voyez que si on va maintenant sur le terrain, et ceci sans avoir besoin de forer en profondeur, si on va sur le terrain, on peut retrouver ces témoins des roches qui sont descendues à des profondeurs importantes. Alors on arrive ici à des profondeurs, on a vu des profondeurs de l'ordre de 50 km, mais on trouve maintenant des roches qui sont atteintes des profondeurs de 100-150 km. Hein. Exceptionnellement un peu plus, mais bon, c'est une histoire un peu plus complexe à mettre en évidence. Alors maintenant, nos bonnes vieilles chaînes de montagne, on ne va pas les oublier quand même, pour l'instant je suis resté dans les Alpes. Mais les vieilles chaînes de montagne, elles ont une information à nous apporter, c'est que ce sont d'anciennes montagnes jeunes qui ont été érodées, donc elles vont nous donner des informations sur cette étape d'érosion, d'exhumation, de disparition des reliefs. Alors on les retrouve dans le massif central, bien entendu, c'est ce qui est ici coloré en rouge, mais en fait c'est pas coloré par les roches métamorphiques, mais par les roches granitiques. Dans les chaînes anciennes, les granites sont souvent présents aux côtés des roches métamorphiques. Donc dans le massif central, dans le massif armoricain, bien entendu, dans les Vosges, mais aussi dans les chaînes récentes. Dans les chaînes récentes, on retrouve aussi des portions de la chaîne ancienne. La zone axiale des Pyrénées, qui est une chaîne alpine récente, contient de la chaîne hercynienne des portions équivalentes à celle du massif central. Et même également dans les Alpes. Nous avons des massifs dans les Alpes qui sont des massifs anciens, et puis enfin, bien sûr, en Corse. Alors, oui, donc ces chaînes de montagnes récentes, vous voyez que le paysage est beaucoup moins passionnant pour le géologue et il est plus difficile à déchiffrer. Mais quand même, on va y trouver des choses assez spectaculaires. On arrive même à y trouver les étapes les plus précoces de la chaîne. Malgré l'érosion, malgré toute la longue histoire de la collision, eh bien, dans le massif de Champs-Rousses, à proximité de Grenoble, à l'intérieur du massif de Belledonne, qui est un massif hercynien, eh bien, on a une ophiolite qui a très bien préservé toute son histoire océanique, précoce. C'est quand même une vieille dame, c'est 496 millions d'années. Un autre lieu assez spectaculaire en France, c'est l'île de Groix, qui a retenu les stades précoces de la subduction de l'océan, de ce vieil océan mercinien, de ce vieil océan du massif central. Les informations sont absolument spectaculaires. Je ne sais pas si les GGHL a déjà fait un tour à l'île de Groix, mais c'est vraiment un endroit qu'ils devraient aller voir. Hein. Parce que c'est de toute beauté. Là, moi, je n'ai même pas eu le temps de le voir. Enfin, bon, je vais revenir un petit peu. Là, vous avez une roche ici dans laquelle le glaucophane, donc cet amphibole bleu caractéristique, est largement dominante. Il y apparaît des petits grenats ici, en fait, pas si petits que ça d'ailleurs, et des longues baguettes d'oxyde de titane ici, du rutile. Donc, la photo suivante vous montre les jolis grenats. Hop. Voilà, donc c'est la même chose avec l'épidote verte, jaune, pardon, entre les glaucophanes. Enfin, remarquez les formes cristallines parfaitement conservées du grenat. Alors par contre, je suis désolé, mais c'est dans une réserve, il est interdit d'échantillonner. Hein. Donc à part ça, dans les chaînes de montagne anciennes, on trouve aussi des éclogites. Alors, dans le Massif central, mais ici, c'est dans les Alpes, mais ça fait partie quand même de la chaîne arcinienne. Hein, vous avez les éclogites du lac Cornu, avec en toile de fond, ici, le massif du Mont-Blanc. Alors, qu'est-ce que vont nous raconter ces éclogites, ces vieilles éclogites? Eh bien, elles vont remonter au cours de l'érosion, et vous voyez qu'elles aussi, elles montrent une des couronnes caractéristiques qui enregistrent donc les transformations, c'est changement de profondeur. Alors cet échantillon-là qui est vraiment très beau, c'est l'échantillon des éclogites de la Compoterie en Vendée, dans le village. Ils ont donné le nom à un petit chemin, le nom des éclogites, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, regardez au microscope, la petite couronne noire, eh bien, elle est un petit peu plus compliquée dans le détail. Elle va être formée d'un mélange d'amphiboles vertes cette fois-ci avec du plagioclase. Et là, ben, ma foi, on peut écrire la réaction hein, entre le grenat qui est séparé de ce qui reste ici du clinopyroxène. Donc on peut écrire la réaction, grenat, clinopyroxène, donne amphibole plagio. Alors c'est un petit peu plus compliqué dans le détail, mais ça c'est pas grave. En fait, il faut juste rajouter un peu de quartz et d'eau pour équilibrer cette réaction. Mais déjà, minéralogiquement, on voit la majorité de l'information. Dans nos échantillons, on retrouve cette forme globuleuse, hein, des minéraux noirs, macroscopiquement noirs et blancs, ce sont l'amphibole verte au microscope, l'amphibole verte et plagio, et maintenant le grenat a disparu. Ça veut dire que la transformation a été plus importante, et ça va se retrouver au microscope. Voilà ces anciens grenats qui sont transformés par ces petits agrégats d'amphibole et de plagio, et parfois, si la roche est encore déformée, eh bien, ces structures relictuelles, ces traces, ces fantômes de grenats vont disparaître. Et ça veut dire que ces roches-là ont perdu la mémoire. Ça, c'est bien dommage, mais il faut bien se rendre compte que ce que je vous ai montré juste là, ça représente un volume absolument dérisoire qui doit même être inférieur à 0,01% du volume de toutes les roches. La majorité font comme celle-ci, elles ont la mémoire courte. En attendant, eh bien, on va quand même pouvoir résumer l'exhumation au cours de cette érosion par ce trajet-là. Donc ce trajet est un petit peu différent de celui de tout à l'heure, qui se passait à une température un peu plus froide. Mais là, on est passé dans le domaine de l'amphibolite, de l'amphibole verte. Donc ça veut dire qu'il a fallu réchauffer pour franchir la réaction qu'on voit ici, que je vous ai citée, qui est une opéroxène plus grenat, plus corps, plus vapeur. Dans l'amphibole plagio. Donc cette exhumation lente, qui se fait maintenant dans ces chaînes anciennes, ou qui s'est fait dans ces chaînes anciennes, plutôt, se fait à une température différente. Vous voyez que donc il y a quelques nuances dans toute cette histoire. Et maintenant, eh bien évidemment, ces roches, elles sont revenues jusqu'à la surface, puisqu'on les observe, hein, on n'a jamais observé, ou on observe que très exceptionnellement des échantillons de profondeur, mais ça reste de toute façon des profondeurs qui sont dérisoires par rapport à celles que j'ai indiquées ici. Hein. Il est hors de question d'aller chercher des échantillons à 40 km de profondeur. Donc il reste ce dernier parcours-là. Et ce dernier parcours-là, c'est une chance pour nous. En général, il n'est pas enregistré par la roche. Il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire qu'au au pire, si toute la roche, si la roche a oublié toute son histoire précoce, elle pourra toujours nous indiquer cette dernière étape. Alors parfois, on observe quelques petites fissures ici qui traversent cette roche. En fait, cette fissure, c'est parce que la biotite, le minéral, le mica marron qui constitue le minéral sombre de cette roche, est transformé en un minéral vert, la chlorite. Donc, très localement, cette transformation a pu avoir lieu. Voilà, donc, on a fini l'histoire, on a fini le parcours, on a fini tout ce trajet, vous voyez, qui est relativement long, avec différentes variantes possibles. Pardon. En conclusion, c'est très bien exprimé ici par l'image, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est que grâce à l'étude d'objets qui sont tout petits, à l'étude microscopique, finalement, moyennant quelques précautions et quelques réflexions, on peut arriver à faire des interprétations à l'échelle globale, voyez le changement d'échelle de ces différentes figures. Voilà, le parcours est terminé, et moi aussi j'en ai terminé. Je vais juste laisser la parole à cette tortue du sultanat d'Oman, qui se demande bien qu'est-ce que c'est que cette histoire de montagne.